Soyez bénis, bonjour.
Bonjour.
Bon dimanche, ça va bien?
Oui.
Nous, ça va bien aussi, bien sûr, grâce à Dieu, tout va bien, mais nous avons dans la communauté un chagrin, c'est que nous avons perdu notre chien qui s'appelait Potter, que nous aimions beaucoup. Et c'est pourquoi nous avons mis une photo sur la page de Révélation Bible de notre chien Potter. C'était un chien qui nous a accompagné pendant 13 ans. Vous savez, pour qui aimez les animaux, si vous n'aimez pas les animaux, vous allez me trouver ridicule, bouclez tout de suite, allez ailleurs, allez écouter un autre truc. Mais pour ceux qui aiment les animaux, vous savez qu'on s'attache. Et c'était un chien qui était vraiment extraordinaire. Et bon, ben, ce matin, c'est le premier matin depuis 13 ans que je me réveille sans qu'il me lèche la main. Et des choses comme ça, on n'arrête pas d'y penser. Là, par exemple, tout à l'heure, on a chanté des cantiques. Ben, il aimait bien nos cantiques. Il venait tout le temps, il était tout le temps au culte avec nous. Et il aimait bien nos cantiques. Il n'y avait qu'une chanson qu'il n'aimait pas, c'est quand on chantait Joyeux anniversaire. Alors ça, quand on chantait. Puis alors, on chante souvent chez nous, parce qu'on est nombreux. Donc, oh là là, quand on chantait Joyeux anniversaire, il hurlait à la mort. Voilà, on a des tas de souvenirs. Notre chien, il était merveilleux, attachant, attaché à nous. Et voilà, c'est un chagrin. Il a eu un cancer. Et puis, ben voilà, il est parti. C'était hier et c'est triste pour nous. Donc voilà, je comprends pour vous aussi qui avez un animal et puis vous êtes attaché, voilà. Mais avec Michou, et on a décidé qu'on va pas rester comme ça dans le chagrin. On va aller choisir un petit chien et puis il remplacera jamais Potter, mais voilà quoi, ce sera. On va lui donner toute notre affection. Je crois que Dieu a créé ces animaux pour que justement ça soit une compagnie pour nous. Et c'est tellement, tellement agréable, c'est tellement doux, c'est tellement beau. Évidemment, il faut bien les. Nous, on ne l'avait pas vraiment élevé, il était mal élevé. Il venait toujours mendier à table, mais moi j'aimais bien ça, qu'il vienne mendier à table un petit peu, c'était formidable. Et puis je voudrais vous dire aussi à vous qui avez perdu un chien, c'est que. Dans le paradis, il y a des tas d'animaux. C'est écrit dans l'Apocalypse, par exemple. Vous voyez des chevaux, etc. Il y a des animaux. Et je suis sûr que vous allez retrouver votre animal de compagnie. Que c'est voilà. Moi, je suis sûr de ça. Donc, c'est un chagrin, mais on va passer dessus. C'est pas notre joie n'est pas altérée. C'est juste que nous avons. Voilà, c'est un moment difficile parce que c'est un être qu'on aimait beaucoup. Ces créatures de Dieu sont magnifiques. Tout ce que Dieu fait est magnifique. Mais Potter, c'était le mieux. Voilà. Et c'était le plus beau. Voilà, on a une petite blague avec notre ami Rosa qui avait les mêmes chiens. Lui, il en a eu trois comme le nôtre. Et on n'arrêtait pas de comparer notre chien avec les siens et on disait toujours. Voilà, c'était. Moi je disais c'est le mien le plus beau, lui disait non c'est le mien le plus beau. Vraiment. C'était une petite blague. Et puis voilà, maintenant. Et ben, lui il me reste un qui s'appelle Charles, qui est énorme, mais qui n'est pas beau. Hein. Ah oui, il n'est pas beau. Si, il est très beau. C'est des caniches royaux, c'est des animaux très beaux, très doux, qui ne sont pas mauvais. Même quand ils vont sous la pluie, ils ne sont pas mauvais. Ils aiment les enfants. C'est vraiment des animaux formidables. Bon, excusez-moi de vous parler de mon chien, mais je ne pouvais quand même pas rien dire. Je sais que vous qui venez sur Internet, vous nous aimez. Et ben voilà, nous avons un cœur. Et puis, je voulais vous dire ça. Parce que, voilà. Bien, on va ouvrir les Écritures. Dans Jacques, chapitre 1, versets 16 à 18. Je vais vous lire dans la parole vivante de Alfred Kuhn, Suisse, qui avec une équipe a traduit cela. Alors voilà comment il traduit cela. Ne vous laissez donc pas égarer sur ce point, mes chers frères. Dieu ne nous incite jamais au mal. Au contraire, s'il y a quelques cadeaux de valeur, quelques dons parfaits, ils nous viennent d'en haut, du Père, du Créateur, de tout ce qui est lumineux. Il reste toujours égal à lui-même. Il n'y a en lui ni ombre ni variation. Par un acte libre de sa volonté, il nous a fait naître de nouveau par le moyen de la parole de vérité pour que nous soyons, pour ainsi dire, les premiers fruits de sa nouvelle création. Amen. Alors, Est-ce que vous avez conscience d'être les nouveaux fruits de sa nouvelle création? Il a créé le monde, et puis ensuite il s'est reposé, et puis depuis Jésus-Christ, il a recommencé à créer. Il a créé quoi? Des êtres comme nous. Alors, je disais, Bernard Werber, son dernier bouquin qui s'appelle « Demain les chats », je vous le recommande si vous aimez les animaux. Alors il dit, le chien pense, les hommes me nourrissent, me protègent, même, ils doivent être des dieux. Voilà. Et puis les chats pensent, les hommes me nourrissent, me protègent, même, je dois être leur dieu. Vous voyez la différence. Et Winston Churchill a rajouté, il n'y a que les cochons qui nous considèrent comme leur ego. Ça me rend. Vous voyez, la même situation, il peut y avoir des différences d'appréciation. Ça dépend ce qu'on est. Et nous sommes une nouvelle créature, donc nous pensons autrement. Nous ne pensons pas comme les gens de ce monde. Nous avons une autre façon de penser. Nous connaissons, grâce à l'inspiration que Dieu nous donne par le Saint-Esprit, des choses que le monde ne peut pas connaître. Ce n'est pas la vantardise, ce que je dis là, c'est la vérité, c'est ce que la Bible dit. Ce sont des choses inaccessibles pour eux. On va prier. Seigneur, je te demande de nous garder, de nous guider, de nous aider à comprendre. Et si quelque chose est encore bloqué dans notre compréhension, aide-nous, Seigneur Jésus, afin que nous puissions saisir ces choses, afin que nous puissions aller plus loin. Merci, mon Dieu. Amen. Ces choses que le monde ne peut pas connaître, c'est notre héritage. C'est à nous, c'est bien à vous. On entend souvent les gens dire « Ah, quel bonheur, quelle joie, je suis heureux, oh là là !» Ou alors « Si j'avais ceci, si j'avais cela, je serais heureux. Si j'étais marié, je serais heureux. » D'autres pensent « Si j'étais veuf, je serais heureux. » Voilà. Mais quand on analyse ce qu'ils entendent par « bonheur », on voit qu'il ne s'agit pas de grand-chose. En fait, il ne s'agit que de petites sensations passagères, souvent illusoires. C'est comme un état de conscience qui leur donne un contentement, une satisfaction passagère. Voilà, ça c'est pour eux, c'est ça leur bonheur, c'est ça le bonheur pour eux, c'est comme ça. C'est quand on éprouve des sensations agréables, en fait basées sur nos cinq sens. Quel bonheur! Mais mes frères et sœurs, le bonheur c'est autre chose. S'imaginer que si on a une belle maison, une belle femme, un beau mari, gentil, la gloire, la beauté, on sera heureux. Mais c'est pas ça. Bon, c'est sûr qu'il vaut mieux habiter une belle maison qu'un taudis. Et on est très heureux là où nous sommes parce que c'est joli. Mais voilà, c'est pas ça qui fait le bonheur. On connaît des gens, des milliardaires, dans des maisons extraordinaires, mais qui se suicident parce qu'ils sont. C'est pas le bonheur d'avoir une belle maison, d'avoir des. Du fric, tout ça, c'est bien sûr que ça y contribue, ça peut, bien sûr, ça aide, c'est sûr, c'est mieux que d'être pauvre, habiter une porte cochère sous un carton, c'est certain. Mais c'est pas ça le bonheur. Ça fait des milliers d'années que l'histoire du monde nous prouve que c'est pas ça. Alors c'est quoi? Pour connaître le bonheur, comme les sages, comme les monachos, comme les initiés l'ont compris, il faut connaître la structure de l'homme et de l'univers. Sans cette connaissance, on ne saura jamais ce que c'est le bonheur. J'ai lu au sujet, je lis plein de trucs, et j'ai lu au sujet d'Alexandre le Grand, qui est un ancêtre de notre sœur Liliane. Elle a fait ses recherches généalogiques, elle a donc su. Ce Alexandre le Grand dans sa lignée. Et quand il était en Inde, il a rencontré un yogi. C'est ce qu'un yogi, c'est quelqu'un, c'est pas yogi l'ours, hein, c'est un homme qui fait, ou une femme qui fait du yoga. Voilà, les chrétiens crient au secours, c'est diabolique et tout. Bon. Alors il en avait entendu parler et il voulait le connaître parce qu'il avait entendu des choses tellement extraordinaires et quand il l'a trouvé, le yogi, il était assis sur sa natte, dans sa position lotus, je crois. Enfin bon, il était en train de méditer, il avait le visage paisible, et Alexandre le Grand s'approche, et il le salue, il lui dit à quel point il est heureux, n'est-ce pas, de le rencontrer, il est tout plein de bonheur, il est heureux de le rencontrer. Vous voyez, ça, vous allez voir que ça ne dure pas longtemps le bonheur. Et il lui dit qu'il allait l'emmener avec lui pour l'installer dans son palais en Macédoine, etc., etc. Il lui dit qu'il lui donnerait la richesse, qu'il lui donnerait les honneurs et tout. Et le yogi l'a regardé avec un regard plein de pitié et il lui a dit « mais je n'ai pas besoin de tout cela ». Alors Alexandre le Grand s'est fâché. Vous voyez le bonheur, tac, tac. Hein. Il se fâche, il dit « quoi ? Tu oses refuser mon invitation ? Tu sais pas que j'ai qu'un nom à donner et puis t'es mort ?» Vous voyez l'arrogance, n'est-ce pas ? Le sage, il lui sourit et lui dit « mais tu peux pas me tuer, car la mort n'a aucune emprise sur moi, je l'ai vaincu. C'est moi qui te plains, avec tout ce que tu possèdes. Quel fardeau, quelle charge, que tu es malheureux. » Et ça a transpercé le cœur d'Alexandre le Grand, et pour la première fois, il a été vaincu par un homme sans armes. Il est parti tout penaud, et il a réfléchi longtemps là-dessus. Comment ce sage avait-il trouvé le bonheur? Comment est-ce qu'il pouvait être content comme ça? Vous savez, j'ai voyagé beaucoup, en Inde aussi, et j'ai rencontré partout, dans tous les pays, surtout en Afrique, en Afghanistan, en Pakistan, en Iran, dans des pays, enfin, un peu partout, j'ai rencontré des gens très simples en Afrique, pour pas dire même primitifs, des gens primitifs. Eh bien, ils sont plus heureux que les gens dits civilisés. Pourquoi ? Et parce que en développant leur intellect, l'homme civilisé est devenu plus vulnérable aux événements, aux variations de notre condition matérielle. Alors il y en a qui poussent loin, qui disent donc ça veut dire que plus on est primitif, plus on est heureux. Alors pourquoi ne pas descendre plus bas parmi les animaux ? Ils sont heureux les animaux. Enfin mon chien il était heureux. Il y en a qui sont pas heureux. Hein. Et pourquoi pas les plantes ? Hein, les plantes, elles sont heureuses les salades. Hein, elles souffrent pas les salades. Enfin du moins quand on les arrache, on les entend pas crier, ça ne nous émeut pas. Hein ? Ou alors plus bas encore, on peut les cailloux, hein, les cailloux. Ben ça souffre pas les cailloux. Pourquoi pas descendre jusqu'à ce niveau? Voilà, c'est ça. C'est logique, non? Non, c'est pas logique, c'est idiot. Non, le bonheur n'existe que dans une région. Dans une région où rien est altérable. Cette région, elle existe, et les initiés chrétiens l'ont découvert. Il n'y a pas besoin d'aller en Inde, d'aller faire du yoga, d'aller faire de je ne sais quoi. On a tout ça avec Jésus. Je ne critique pas ceux qui font du yoga. Ils font ce qu'ils veulent. Je ne suis pas là en train de diaboliser. Je trouve que c'est ridicule de diaboliser ce qu'on ne connaît pas ou ce qu'on croit connaître. Mais je dis que nous avons en Jésus-Christ tellement, tellement tout ce qu'il nous faut. Les initiés chrétiens ont découvert cette région. C'est pourquoi les chrétiens travaillent leur salut en pensant, en aimant, en agissant, en travaillant, de façon à vivre dans cette région où règne le bonheur. Vous me suivez ? Alors quoi qu'il arrive, ben, ils sont heureux. Il y a ce dépôt de paix, de bonheur, d'être heureux. Quand on lit dans les Écritures, il nous est dit qu'il faut que nous nous contentions de ce que nous avons. Vous connaissez ça ? Ce passage, je ne me rappelle plus où il est, mais enfin, peu importe, ça va me revenir. Mais se contenter de ce qu'on a, mais ça ne veut pas dire se contenter de sa vieille bagnole pourrie. Ça encore, c'est pas trop difficile à changer. Mais ça veut dire se contenter d'être la personne qu'on est. Et puis, on a toujours un espoir, parce qu'on peut s'améliorer, mais il faut quand même être content de ce qu'on est. Hein, je regarde les jeunes, je trouve qu'ils sont beaux, sont magnifiques et tout. Bon, moi je suis vieux, je suis beaucoup moins beau. Je m'en fous, je suis content. Vous n'êtes pas content? Mais on est content. Pourquoi on est content? Parce que on sait que c'est dans les choses que Dieu a voulu, que c'est comme ça que ça doit se passer. Puis ça va. Puis voilà. Puis un jour on va revêtir notre cour de gloire. Et puis voilà, c'est bon. On est content. On peut être paisible. Vous voyez pourquoi le bonheur est si difficile à trouver ici-bas. Ce qu'il nous faut, c'est trouver, pour être heureux, les éléments stables, immuables, éternels. Parce que, d'abord, il faut les trouver, c'est pas facile. Puis ensuite, c'est difficile à les conserver. C'est difficile à les conserver. Et c'est parce que le bonheur est exigeant. Il attend de nous des grandes qualités. Le bonheur, c'est quelque chose de vivant. Dieu est amour, mais il est aussi bonheur, il est aussi joie, il est aussi paix, il est aussi lumière, il est, etc., etc. Il est exigeant, il attend des grandes qualités, et il attend sur nous, surtout de nous de la pureté, parce que seul ce qui est pur est inaltérable. Alors les gens sont perdus tant qu'ils croient qu'ils pourront être heureux en maintenant en eux des états de conscience inférieurs, comme la haine, la jalousie, la cupidité, l'obstination, etc., etc. J'ai lu quelque part un, entre guillemets, prophète qui dit « Voici, c'est maintenant, nous sommes entrés dans le temps de la réconciliation. » Faux ! Nous sommes tout le temps dans le temps de la réconciliation. Tout le temps. Si quelqu'un t'a fait du mal, tu vas le trouver, tu lui parles, et s'il te rejette, c'est pas grave, tu le pardonnes quand même. Est-ce que c'est pas ce que Jésus nous dit de faire? Mais si on peut se réconcilier, c'est bien, mais si les gens veulent pas se réconcilier, ben, on est heureux quand même. J'allais dire, on s'en fout, qu'est-ce que vous voulez faire? On ne peut pas obliger les gens à se réconcilier avec nous, mais il n'y a pas un temps pour la réconciliation, c'est tout le temps la réconciliation, monsieur le faux prophète. Bon, c'est sûr que on peut se réjouir de toutes sortes de choses, par exemple d'avoir lésé son prochain, mais ensuite, il y a les inquiétudes qui commencent, et pouf, le bonheur, il s'en va. Vous voyez, c'est des bonheurs qui sont, c'est passager, quand c'est pas pur, quand c'est pas pur. C'est pas ça le vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est quelque chose qui est pur, qui provient de la pureté. Ce que je cherche à vous dire, c'est que le bonheur, c'est un état qui se caractérise par la stabilité. Alors c'est vrai qu'ici-bas, l'existence, c'est une succession de changements. Succès, échec. Alors moi je me rappelle toujours, un jour Nicolas Savadogo est arrivé au château, il me dit mais qu'est-ce que tu as fait à Dieu pour être autant béni, d'avoir autant de succès? C'est extraordinaire. Et puis, nous avons eu des problèmes, et puis voilà qu'une autre personne est venue, je ne veux pas dire son nom, parce que je ne veux pas être méchant, mais il vient, il s'assied en face de moi, il dit « Je suis venu contempler ton échec. » Il y a des moments de succès, puis il y a des moments d'échec. En fait, moi, je ne vis pas dans l'échec. C'est un moment, comme je sais que c'est un moment, ben je m'en fous. Hein, Grachel, on s'en fout. C'est pas grave. Puis attends, on n'est pas sous une porte cochère à dormir sous un carton quand même. Alors il y a des moments d'abondance, puis il y a des moments de pauvreté. Voilà, ben ça arrive à tout le monde. C'est, voilà, la paix, et puis la guerre. La santé, et puis la maladie. Hein, maintenant, moi, quand j'étais jeune, je faisais des complexes, je disais c'est incroyable, tous ces gens malades, et moi je suis pas malade, j'ai jamais rien. Ben là, j'étais servi depuis quelque temps, hein. Mais gloire à Dieu, c'est bien, parce que maintenant je comprends mieux les gens malades. Et puis, j'apprécie mieux la santé encore. Et je remercie Dieu pour toute chose, pas seulement pour ce qui est bon. Alors, vous allez me dire, on est bien obligé de subir les changements. Ben non, on n'est pas obligé de les subir. C'est le mot que j'aime pas. On n'est pas obligé de subir les changements. Quand on est chrétien, il faut se souvenir que nous avons la présence du Saint-Esprit avec nous et en nous. Nous avons la présence des anges avec nous. Et quand on en est conscient, parce que c'est ça le truc, il faut en être conscient, eh bien, notre conscience ne stagne pas au niveau des événements. Pour chaque épreuve, pour chaque difficulté, on trouve une explication, on trouve une vérité qui nous apaise, on trouve une vérité qui nous console. Pourquoi ? Parce que on va la chercher très haut. Il ne faut pas la chercher dans la superficialité. Il faut aller très haut. Parce que le bonheur se trouve très haut. Ça vient de l'éternel, ça vient de ce qui est immuable, de ce qui n'a pas d'ombre de variation. Ça ne fait pas partie de ce système terrestre. Ce qui est d'en haut, c'est ce que la Bible nous appelle à rechercher. Attachez-vous aux choses d'en haut. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une belle voiture, qu'il faut épouser la femme la plus moche, qu'il faut s'habiller comme, je ne sais pas, des clochards. Non, mais quand vous allez en haut, vous savez comment regarder les choses. Vous les regardez d'en haut. On vous a volé, on vous a trahi, on vous a trompé, on vous accuse injustement. Vous qui m'écoutez sur Internet, vous avez certainement vécu des choses comme ça et peut-être que même vous êtes en train de les vivre. Mais vous savez autre chose. Vous savez que tout ça, c'est passager. Et que vous, par contre, vous êtes immortel. Et la Bible dit que rien ne peut vous nuire. Il faut vous souvenir de ça. Ce sont des paroles saintes qui sont sorties de la bouche sainte de Jésus, notre Dieu. Mais il faut s'en souvenir. Il faut se discipliner. Vous voyez, le bonheur se trouve très haut. Il se trouve là où règne l'harmonie, la pureté, l'amour, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Les chrétiens portent ce bonheur en eux parce que Jésus-Christ vit en eux et nous vivons en Jésus-Christ. Nous sommes un avec lui et plus vous êtes un avec lui, plus vous nagez dans le bonheur. Si le chrétien n'est pas conscient de cela, c'est qu'il est resté à la surface, c'est qu'il est resté à la périphérie de lui-même et à la périphérie de nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il y a ? Ben, il y a le changement, puis il y a les illusions, il y a tout ça. Dans cette condition mortelle, la vérité, c'est-à-dire Jésus, nous libère. Ah, c'est une jolie phrase, hein, tout le monde la cite, la vérité vous affranchira. Alors on pense que la vérité, c'est ma doctrine. Mais non, c'est pas ça. La vérité, c'est une personne aussi. Jésus a dit, je suis la vérité. Alors, bien sûr que c'est pareil. Il ne faut pas rejeter les doctrines. Ça nous aide à avoir des petits tiroirs dans lesquels on range les choses qui nous aident à être bien clairs. Mais c'est plus que ça. La vérité, c'est-à-dire Jésus nous libère, mais encore faut-il vivre dans cette liberté, c'est-à-dire en Jésus-Christ. C'est comme la paix. Jésus dit, je vous donne la paix, mais je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Jésus donne la paix, mais encore faut-il la prendre. Mais comment, ça c'est des phrases, comment il faut faire? La paix n'est pas faite d'un seul élément, c'est pas pouf, je te donne la paix. Par exemple, tout à l'heure, Mélodie est arrivée avec un petit cadeau pour Michou, un petit cadeau pour moi, pour nous faire plaisir, parce qu'elle savait qu'on a mal au cœur avec le décès de notre chien. Alors elle nous a apporté un petit cadeau, c'était très gentil. On donne le cadeau, il est là, c'est un cadeau, c'est bien. On l'a pris, puis voilà. Mais maintenant, comment je prends la paix? Comment je fais pour prendre la paix? La paix, c'est pas fait d'un seul élément. Et comme le bonheur, le principal élément de la paix, c'est la stabilité. Souvent, les gens y trouvent Dieu dans des moments de crise, parce qu'ils sont à la recherche, ils ont des problèmes, ils sont à la recherche d'autre chose, que de tous ces problèmes, ils essaient de trouver quelque chose. L'homme pécheur, il cherche Dieu sans savoir, et quand il se met à chercher, à sortir de ses problèmes, il se met à chercher la stabilité dans ses émotions, dans son compte en banque, dans tout ce que vous voulez. Mais Et puis souvent, c'est là qu'ils trouvent Dieu. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus stable que l'Éternel? Il n'y a qu'en lui qu'on trouve de la stabilité, parce qu'en lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça ne signifie pas que Dieu est figé, qu'il est inactif. Non, ça signifie qu'il est au-dessus des événements, que rien ne le perturbe. Tu vas me dire, oui, mais des fois, il rentre en rogne. Oui, parce que, bien sûr, il rentre, bien sûr, moi aussi. Je suis créé à son image et j'ai le droit de rentrer en rogne comme mon père. Mais il rentre en rogne contre quoi? Ben, contre le diable et contre ses suppositoires. Et nous aussi, nous. Mais ça ne veut pas dire qu'on perd notre paix. Moi, je peux être en colère, crier tout ce que vous voulez, mais vous ne gâchez pas ma paix, la paix est là. Une fois que j'ai poussé ma gueulante. Vous voyez? Ça signifie qu'il est au-dessus des événements. Ça, c'est peut-être un langage que quelques-uns ne peuvent pas comprendre, parce qu'ils ne font pas la différence entre ce qui est superficiel et ce qui est élevé. Je parlais d'initiés, je ne parlais pas de simples chrétiens qui se contentent d'aller poser leur derrière dans une église et qui pensent que parce qu'ils prennent un bout de pain, qu'ils boivent une goutte de vin, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Pour être en paix, dans le bonheur, il faut s'accrocher au Seigneur. Parce que lui seul donne la vraie paix, c'est-à-dire la stabilité. Écoutez bien. Chez ma grand-mère, Rose, et mon grand-père, Ulysse, il y avait une grande pendule qui faisait un bruit. Vous savez, c'est avec un grand balancier, ça faisait « ké, tan, ké ». Puis alors ça sonnait tous les quarts d'heure. Je ne sais pas comment ils faisaient pour vivre là-dedans, mais enfin bon. Moi aussi, de temps en temps, quand j'allais en vacances, ben, j'étais bien obligé de supporter la grande salle, la grande, comment on appelle ça, la grande pendule dans le salon, c'était obligé. C'est comme ça. Et elle allait toujours se balancer, elle allait toujours de gauche à droite. Mais si mon grand-père oubliait de remonter le mécanisme avec sa clé, c'est une grosse clé, eh bien le balancier finissait par s'arrêter en position d'équilibre. Il ne s'arrêtait pas à gauche ou à droite. J'étais tout petit et j'observais ça. Eh bien, pourquoi? Parce que le balancier était fixé à un point déterminé. Eh bien, nous devons chercher ce point en nous-mêmes. Parce que Jésus est en nous. Ce ne doit pas être simplement une jolie petite phrase, mais ça doit être une réalité. Il vous faut passer du temps dans la méditation, faire le calme en vous, rechercher à être conscient de la présence de Dieu, par chercher à ce que Dieu soit présent, il est toujours présent, mais que vous soyez présent dans sa présence, avoir des moments de tranquillité. Je parlais des yogis tout à l'heure, mais ces gens-là, ils ont compris des choses que vous n'avez pas compris, vous autres les chrétiens, énervés, excités, gueulards et tout ce que vous voulez. C'est justement ces moments où on se relaxe, on respire, on est tranquille. Oh, je suis pas en train de faire l'apologie du yoga. Des problèmes avec les chrétiens un peu bornés. Non, je ne fais pas l'apologie du yoga, mais je fais simplement la critique de cette espèce de christianisme de consommation que nous avons au XXIe siècle, qui est un christianisme déréglé, déréglé. Jésus en nous, c'est quelque chose de puissant. Si vous êtes bien accroché à Jésus, en qui il n'y a aucune ombre de variation, vous apprenez comment voir les choses, comment les sentir et comment agir. Écoutez, vous êtes né de nouveau comment? Par un acte de sa libre volonté, nous dit Jacques. Il nous a fait naître de nouveau par le moyen de la parole de vérité. Pour que nous soyons, pour ainsi dire, le premier fruit de sa nouvelle création. Vous pensez que vous êtes né de la parole de vérité? Et que voilà, ça suffit comme ça. Non, cette parole, c'est une nourriture. C'est une nourriture si vous vous nourrissez de cela, si vous vous nourrissez de cette parole. La parole de Dieu, quand vous lisez la parole de Dieu, c'est comme si Jésus vous parle face à face. Mais il faut en être conscient. Mais pour en être conscient, il faut être déjà un petit peu... faut pas être trop superficiel. Faut pas être en périphérie en disant ah bon, j'ai pas lu ma Bible aujourd'hui, il faut que je lise ma Bible. Ah, est-ce qu'elle est déjà là. Bon, alors qu'est-ce que je vais prendre? Bon, ce passage j'ai déjà lu là. Bon bah tiens, je prends celui-là. Blablabla. Oui, c'est vrai, c'est bien. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Non mais c'est vrai. Non. Oh ben, quelle heure il est? Oh, c'est pas possible. Il faut que j'aille chercher les gosses. Ouais. C'est pas possible. Les yogis sont mieux que vous. Pourtant ils sont dans l'erreur. C'est vous qui êtes dans la vérité. Alors c'est quoi ce cirque? Ah. Si vous êtes bien accroché à Jésus, c'est-à-dire à la parole de vérité, c'est-à-dire à l'écriture sacrée et à l'esprit de cette écriture, vous n'êtes plus à la merci de tous les vents, de tous les troubles, vous n'êtes plus apeuré, non, pas du tout. La tempête se déchaîne, c'est sûr, mais ça reste superficiel. Vous êtes bien accroché. Vous êtes dans un état de conscience, une manière de comprendre, une manière de sentir, une manière de vous comporter. Mais ça vient avec la connaissance, pas avec les sentiments. Marre, ras-le-bol des chrétiens sentimentaux et dégoulinants. On en connaît, hein? Alléluia, oh gloire à Jésus. Oh le Seigneur est bon, amen, alléluia. Oui, oh oui, alléluia, chabelle. Oh, nous avons eu un culte merveilleux, on a senti sa douce présence, et ce chant nous a élevé l'âme jusqu'aux cieux. Bon. Il faut arrêter d'être comme ça. C'est pas ça, c'est la connaissance. Vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance, et vous ne connaissez pas Dieu. C'est terrible. Ça passe par la connaissance. Vous devez posséder la science de Jésus et la mettre en pratique. C'est pour ça que le bonheur et la paix n'appartiennent qu'à ceux qui savent comment les trouver grâce à un travail spirituel, une discipline. Ah, mais moi je suis un disciple de Jésus. Ah oui? Ça n'appartient, cette stabilité, qu'à des gens qui ont une discipline, qui font sur eux-mêmes un travail spirituel, qui n'ont pas simplement une croyance. Oui, je crois qu'avec un peu d'amour, on peut changer la terre. Le c'est ça, Mireille Mathieu, c'est bien que c'est pas vrai. Oui, je crois. Il ne suffit pas de croire, il faut une discipline. Une mise en pratique d'une discipline. Parce que la paix, comme le bonheur, c'est une synthèse de beaucoup de choses. Et si on comprend ces choses, si on les sent bien, on a la possibilité de bien vivre. Que ça soit dans l'abondance ou que ça soit dans la disette. Et d'être heureux. Mais pour y arriver, il faut être dans une école initiatique. Ah Michel, tu nous parles de yoga, puis maintenant tu nous parles d'école initiatique. Mais oui, mais vous savez ce que ça veut dire, initier? Allez dans le dictionnaire, je ne vais même pas vous le dire. Vous avez un dictionnaire à la maison, si vous n'en avez pas, vous allez en acheter un. Vous n'avez pas l'argent. Ah puis ton Dieu est un Dieu d'abondance et tu n'as pas l'argent pour te payer un dictionnaire. C'est quoi ce Dieu d'abondance? C'est juste une phrase alors. Il faut être dans une école initiatique. Un frère me disait l'autre jour, quand je suis arrivé à la communauté, je croyais que ça serait une école biblique, avec des livres, des cahiers, des études tous les matins. Ben, c'était pas ça du tout. Non, c'était pas ça. La communauté, c'est une école initiatique. On y vit la discipline instituée par Dieu dans la Bible. On vit. Alors il y a des moments d'enseignement, mais on vit l'enseignement. En épluchant les patates, en faisant la vaisselle, en récurant le sol, en étant gentil avec son frère. Et puis, même aussi avec le chien, on avait une sœur qui foutait des coups de pied à notre chien. bonne sœur chrétienne, alléluia. Elle aime les gens, mais elle n'aime pas les animaux. Il y a des gens qui aiment les animaux, mais pas les gens. Hein. Elle, c'était le contraire. C'est là, dans l'Église rétablie, selon acte 2, selon acte 4, c'est-à-dire, ils mettaient tout en commun, ils vivaient ensemble, l'une disait que ses biens lui appartenaient en propre, ils prenaient leur repas tous ensemble, etc., etc. Luc 14, 33, nul personne ne peut être mon disciple s'il ne renonce pas à tous ses biens. C'est ça l'école initiatique, c'est l'Église. C'est la communauté, mais peu veulent le faire. Ils veulent bien aller dans un local qu'ils loueront très cher pour aller poser leur derrière le vendredi et le dimanche, mais c'est tout. Mais vivre dans une école initiatique, ah non. Alors certains n'ont rien compris, ils sont venus puis ils sont repartis. Ils n'ont rien compris. Il y en a même qui m'ont dit, c'est du gavage. Une femme m'a dit, celle qui shootait notre chien, qui lui foutait des coups de pied, c'est insupportable cette quête de perfection, et maintenant j'en peux plus. Ouais, mais voilà. Bon, je peux vous dire que quand je vois ce qu'elle est devenue, je me dis que vraiment elle n'avait rien compris. Pourquoi Jésus a-t-il créé l'Église en tant que communauté de vie ? Parce que ce n'est que dans une école initiatique qu'on peut apprendre à être heureux. Si on est animé de bonnes intentions, évidemment, parce que si on vient que parce que la bouffe est bonne, ou que parce que Michel Jonton est sympathique, ce qui n'est pas toujours le cas, ou que parce que, voilà... pas besoin de faire la vaisselle tous les jours, on a fait un tour de rôle, c'est sympa, c'est un Michou qui nettoie nos culottes, c'est bien. On n'a rien compris. Le bonheur ne s'obtient pas comme une baguette de pain chez le boulanger, pas du tout. Le bonheur exige de vous une discipline par laquelle vous élevez votre compréhension et votre amour jusqu'au ciel. Mais une discipline. Parce que le bonheur, c'est une personne, Dieu, l'éternel, immuable, stable, sans ombre de variation. Alors je vais m'arrêter là ce matin, je continuerai peut-être un de ces jours, et je vous laisse réfléchir et méditer sur ces choses. Et que Dieu vous aide et nous aide tous à bien comprendre. Il y a des moments, même dans l'école initiatique, on a des moments hauts, on a des moments bas, on peut être en tant que personne, c'est vrai qu'on peut des moments être un peu raplapla, mais dans une école initiatique, on n'est jamais seul, donc on trouve toujours quelqu'un pour nous donner des petits coups de pouce, pour nous aider. C'est vrai, mes frères et sœurs, Jésus avait bien pensé, quand il a pensé l'Église, vie communautaire, et le monde s'est trompé. Et ils ont fait ces trucs-là qu'on connaît, qu'ils appellent l'Église. Maintenant, c'est devenu la norme, leur truc à eux. Mais ce n'est pas ça la norme. Ce n'est pas ça qui est normal. Ce qui est normal, c'est ce que Jésus a enseigné. Le monde ne le veut pas. Les chrétiens ne le veulent pas. Moi, je sais ce que je veux. Et j'irai jusqu'au bout comme ça. Parce que c'est ça qui est vrai. Parce que c'est ça qui est écrit. Et je suis né de cette écriture. Je suis né par cette parole de vie et je continuerai à vivre de cette parole de vie. Et toute parole qui sort de la bouche de Dieu est vraie. Amen. Même 1 Corinthiens 15, 29. Même 1 Pierre 4, 6. Tout ça, c'est vrai. Même si eux, ils n'y croient pas. Mais c'est pas grave. C'est eux. Nous savons ce que nous voulons. Nous savons ce que nous désirons. Et nous savons ce que nous vivons. Nous savons vivre dans l'abondance. Mais aussi dans des moments difficiles de disette, pas la pauvreté, mais c'est des moments un peu moins abondants. Nous savons vivre dans la santé et dans la maladie. Hein, Eric, hein, Rachel, hein, tout le monde, on sait ce que c'est. On sait vivre, on sait être dans la paix. On apprend cela et on sait cela. Et on protège cela comme un trésor. La parole de Dieu, c'est notre trésor. Alors, si vous avez des doctrines qui contredisent les nôtres et que vous êtes plus heureux que nous, ben, venez me convaincre, s'il vous plaît. mais je crois que j'aurai de la peine. Merci Seigneur Jésus de nous aider à toujours être fidèles dans ce que tu nous apprends et à le vivre et à donner envie à d'autres de le vivre aussi. Merci Jésus. Amen.